France Inter.
Aujourd'hui, Édouard Abel, le rebelle qui parlait au désert, raconté par...
Elisabeth Guindarté, qui a écrit le documentaire Abel, naturellement subversif.
Lucille Schmitt, présidente de la Fabrique écologique.
France Inter. La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Pour beaucoup de Français, Édouard Abel reste une figure méconnue. Pourtant, aux États-Unis, cet écrivain né en Pennsylvanie en 1927 est devenu un héros de la contre-culture, un pionnier de la pensée écologique. Adolescent, il traverse le pays en autostop et tombe amoureux des paysages du Far West qu'il ne quittera plus jamais. Abel est d'abord un contemplatif. Dans ses livres, il écrit comme un panthéiste, tentant d'adopter le point de vue du désert, du coyote ou de la pierre. Mais cette poésie débouche immédiatement sur une politique du lieu, une nécessité d'agir face au béton, au puits de pétrole, à l'extractivisme. Désert solitaire en 1968, directement inspiré par ses années de garde forestier dans l'Utah, devient un texte fondateur du Nature Writing. Très vite, sa révolte rejoint sa contemplation. Dans le gang de la clé à molette en 1975, ses saboteurs amateurs luttent contre les machines qui défigurent l'Ouest. Le roman deviendra le symbole d'une écologie radicale mêlant humour, action directe et défense du vivant. Car Abel était aussi un humoriste transgressif, un polémiste charismatique capable de rendre séduisante une pensée de résistance. Son style, disent ses critiques, est sauvage, brutal et soyeux à la fois. Ceux qui l'ont connu parlent d'une joie farouche, d'un homme qui riait pour ne pas céder au désespoir. Mais cette figure reste complexe, misanthrope, provocateur, contradictoire, capable de positions problématiques autant que d'engagements sincères aux côtés des peuples autochtones ou en faveur des droits des femmes. Il n'était jamais là où on l'attendait. En 1989, fidèle à son idéal de nature sauvage, il est enterré clandestinement dans le désert de l'Arizona, conformément à sa volonté. La terre m'a nourri pendant un demi-siècle, je lui dois mon corps. Aujourd'hui, Abel demeure une référence pour toute une littérature de résistance, un poète rugueux, indocile et l'un des premiers à avoir posé la question simple et brûlante : comment défendre ce qui nous émerveille ? Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter.
Des fleuves sont détournés, des montagnes décapitées et des forêts rasées. L'abus de l'eau et l'abus de la terre. Tout ça pour le profit immédiat. Tout ça pour alimenter et faire croître l'empire militaro-industriel. Jusqu'au jour où il finira par s'autodétruire. La terre d'abord. Comment créer une société respectant la dignité d'hommes et de femmes, libres, en ravageant, polluant, défigurant et insultant la planète?
La voix d'Edouard Abel, traduite par Jean-Philippe Verret, Elisabeth Quin et Lucille Schmitt. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Mathieu.
Merci d'être avec nous. Demain soir, 23h20, Arte, votre chaîne, Elisabeth Quin, diffuse votre documentaire, Édouard Abel, naturellement subversif, que vous signez, réalisé avec Jérémy Frey. Le film est également disponible sur arte.tv en ce moment. Voilà donc un héros de l'écologie américaine que nous sommes nombreux à ne pas connaître en France. Qu'est-ce qui vous a poussé?
C'est parce que vous êtes trop jeune.
Certainement, je n'en doute pas un seul instant. Qu'est-ce qui vous a poussé à consacrer un film entier à ce personnage à la fois célébré et sulfureux?
Cet homme de la géopoétique, ce type dont la pierre tombale portait les mots « no comment ». On y reviendra. Écoutez d'abord un amour illimité pour ses textes, pour sa poétique, sa façon d'écrire, son humour féroce, sa rage face au saccage. Et puis, j'ai réalisé il y a 2 ans et demi que le gang de la clé à molette, qui a marqué quand même 2 générations de gens, de José Bové à d'autres, et à vous maintenant, Mathieu Vidard et à Lucille Schmitt, eh bien, était paru en 75 que c'était le 50e anniversaire cette année. Je me suis dit, à l'époque, Trump était en campagne, je me suis dit, si jamais Trump était réélu, il y a tout d'un coup la collision entre ce livre qui a tellement prophétisé de choses au niveau du saccage du vivant, et puis le retour au pouvoir d'un climato-sceptique, d'un climato-négationniste. Ce serait bien alors de remettre en lumière Édouard Abel, avec son message, qui était un message de lutte, d'engagement, mais aussi d'émerveillement et d'humour. Ça passe par le consensus qui passe par l'humour.
Lucille Schmitt, aujourd'hui dans les milieux militants écolos, en France en particulier, est-ce que Édouard Abel est une figure reconnue et revendiquée même ?
Je ne sais pas si Édouard Habet est une figure revendiquée lorsqu'on dit qu'on peut pratiquer le sabotage des biens, mais en tout cas, lire Le gang de la clé à molette fait partie d'une forme de bréviaire pour certaines nouvelles générations. Par exemple, chez Extinction Rébellion, chez ces jeunes militants activistes écologistes qui, au fond, cherchent aussi une inspiration, j'allais dire, c'est un peu ce que disait Elisabeth, c'est-à-dire il y a quelque chose de... Le terme d'aspirant est trop utilisé, mais il y a quelque chose de passionnant et il y a une sorte de détermination qui fait le lien entre ce qu'on ressent soi et la nature. Et je pense que dans Extinction Rébellion, par exemple, il y a cet enjeu-là qui est au fond, qui suis-je moi par rapport à la nature et comment je suis une partie de la nature. Avec Édouard Habet, on comprend ça. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement passionnant, c'est que au fond, les choses se produisent dans une espèce d'éblouissement, d'événement imprévu. Et ça fait sortir l'écologie du moralisme. Ça l'a fait sortir d'une histoire triste pour réintégrer l'histoire des années 70. Moi, c'est un truc que je dis toujours, c'est que dans les années 70, l'écologie était libertaire et qu'elle est devenue moralisatrice aujourd'hui et qu'on doit retrouver cette espèce de sentiment libertaire.
Et de l'humour aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de bien. Et ça fait passer beaucoup de messages aussi.
L'humour, la farce, la provocation, la bouffonnerie, la bouffonnade. Et quelqu'un comme José Bové qui, dans le documentaire, revendique sa passion pour Habet et d'avoir été inspiré par lui, note ça effectivement, et c'est quelque chose de fondamental, c'est comment faire consensus, comment engager un maximum de gens dans la défense de cette terre qui nous porte, si on ne le fait qu'avec des méthodes coercitives, punitives, donc forcément, qui ne vont pas vous inciter à suivre. Or, l'humour est quelque chose qui vous embarque. Et ça, c'était fondamental. Je pense qu'il l'avait compris, Édouard Habet était un écrivain, un militant, un homme de terrain, mais aussi un universitaire. Et qui avait vraiment travaillé sur toutes ces notions psychologie cognitive, comment communiquer. Il était, mais souverain de ce point de vue-là.
Lucille Schmid, malheureusement, l'aspect punitif de l'écologie, c'est quelque chose qui est renvoyé en permanence aux écologistes. Hein, et c'est quelque chose contre lequel il faut arriver à se défendre aujourd'hui. C'est très compliqué. Hein.
C'est compliqué.
L'aspect liberticide est punitif.
Oui, liberticide est punitif. Et en fait, la difficulté dans un débat public qui est fait de slogans, c'est qu'effectivement, l'écologie punitive, c'est au fond l'expression qui est aujourd'hui la mieux comprise par tous. C'est Ségolène Royal, je crois qu'il l'avait lancé comme un mot au but il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Alors, c'est évident que l'écologie, ça oblige à changer de vie, ça oblige à changer la manière de considérer une vie réussie. Et au fond, ce qui est passionnant, et c'est pour ça qu'il faut lire des grands auteurs comme Édouard Habet, c'est de s'apercevoir que ce qu'on peut considérer comme une écologie punitive, c'est juste une écologie de ne pas avoir l'envie d'aller explorer le monde. Moi, ce que j'adore dans ces romans, c'est qu'au fond, il part dans la nature vierge. Il s'aperçoit qu'on est en train de détruire et donc il organise, enfin dans les romans, la possibilité de préserver la nature, y compris en détruisant des chantiers. Enfin, c'est, vous savez, l'A69, certains vont dire que c'est de l'écologie punitive parce qu'on détruit au fond des choses concernant des autoroutes ou que Notre-Dame-des-Landes c'était de l'écologie punitive. Sauf qu'au contraire, c'était une récupération de liberté, c'était une manière de se remettre à regarder la nature et à s'apercevoir qu'au fond, nous sommes en train de détruire quelque chose, nous sommes en train de nous punir nous-mêmes. Donc il faut retourner les mots, ça c'est... Je ne sais plus qu'est-ce que c'est comme figure de style, mais au fond, c'est nous-mêmes que nous punissons en décidant que l'écologie est punitive.
Elisabeth Quint, Désert solitaire, ça c'est 1968, hein, avant donc le gang de la clé à molette, et c'est aussi le témoignage du coup de foudre d'Édouard Habet pour l'Ouest américain en fait.
Hein. Il a découvert l'Ouest américain juste après la guerre, puisqu'il est né en 27. Il est devenu ranger au milieu des années 50, il a travaillé à Arches National Park, et puis dans deux ou trois autres parcs, Canyonlands entre autres. Il y est revenu régulièrement, il faisait des sessions de 3 mois, 6 mois, il vivait dans des bicoques en bois, il était comme un éremite panthéiste, il était émerveillé. Et puis, en 66, à la suite d'une nouvelle session dans un parc naturel, il s'est mis à écrire une sorte de condensation de ses sensations et de son point de vue sur le vivant. Voilà. C'était pas encore militant, mais d'une certaine façon, subliminalement, Désert solitaire, qui est un chef-d'œuvre, qui n'est pas un roman, qui est une sorte de méditation, est... prémisse du gang de la clé à molette. Voilà, c'est je suis là, je suis dans l'extase, suivra après l'extase, comment perpétuer cette extase si on détruit ce qui nous porte.
On va en écouter un court extrait, c'est une lecture que l'on peut entendre d'ailleurs dans votre documentaire.
On dirait une statue de l'île de Pâques, un dieu de roche, ou un ogre pétrifié. Un dieu, un ogre, la personnification de la nature est précisément la tendance contre laquelle je me bats en moi-même et que j'essaie d'éliminer pour de bon. Je ne suis pas ici pour échapper au tumulte, à la crasse ou au chaos de la machine culturelle, mais pour me confronter de manière aussi immédiate et directe que possible au noyau nu de l'existence, à l'élémentaire et au fondamental, au socle de pierre qui nous soutient.
Voilà, pour entendre la plume d'Edouard Abbey, hein, cet extrait, parce que c'est important aussi de se plonger dans son écriture, très
dit
poétique.
Dit par Samuel Labarthe, magnifiquement lu par Samuel Labarthe.
Ouais, qu'on peut entendre dans votre documentaire Elisabeth Quint, et c'est vrai que cette façon d'écrire porte extrêmement bien le discours écologique, hein.
Absolument. Et je voulais rebondir sur ce que disait Lucille Schmitt tout à l'heure. Edouard Abbey était philosophe, universitaire, très grand lecteur. Il avait lu beaucoup de philosophie. Il avait lu Aldo Léopold, un garde forestier qui a écrit des textes fondamentaux, l'almanach d'un comté des sables dans les années 40. Il avait lu des tas de philosophes. Et il était au fait de cette notion d'éthique de responsabilité. C'est-à-dire que la préservation du vivant, avec lequel nous sommes étroitement liés, indissociablement liés, ça induisait aussi une éthique de responsabilité pour les générations futures. Mmh. Et ça, ça a été théorisé ensuite par Hans Jonas et d'autres, mais il était très au fait de tout ça.
Ouais.
Et ça nourrissait ses textes, sa vision et par la suite son action. Ça n'a jamais été un activiste, mais il a nourri les actions des activistes.
Lucille Schmitt, justement, cette figure Edouard Abbey emblématique, qu'on pourrait d'ailleurs dire aujourd'hui comme une figure de l'écologie libertaire ou de l'éco-anarchisme, ça lui va bien, ça, ce genre de terme ?
Oui, je pensais, en vous écoutant tous les deux, à quand il écrit The Brave Cowboy en 1956, qui va donner lieu à ce film « Seuls sont les indomptés », le film favori de Kirk Douglas. Est-ce que c'était le film favori de Kirk Douglas ? Où en fait, la jument s'appelle Whiskey. Enfin, tout est au fond dans une espèce de mise en scène de cette révolte libertaire. Et ça correspond évidemment à un imaginaire différent d'une autre. Hein. On est aux États-Unis, on n'est pas en France. Donc c'est cet imaginaire du cow-boy. Et c'est vrai que dans ce film, au début, il y a ce cow-boy, on est dans les années 60, et on pourrait penser qu'on est au 19e siècle, mais non, en fait, il y a la trace blanche des avions qui sont là. Donc c'est intéressant de se dire que, je ne suis pas en train de dire que je suis une cow-girl, mais on est en tout cas dans cette situation où il nous invite, d'une certaine manière, c'est ce qui était dit dans le texte, à faire le lien entre ce que nous ressentons intimement, et les combats que nous allons porter. On ne va pas chercher une étiquette, on ne va pas dire qu'on est activiste, je ne sais pas quoi. On va dire simplement qu'on a un moment où on a envie de faire le lien entre ce que l'on ressent intimement, le monde tel qu'il est et la place qu'on a envie d'y occuper. Et pour cela, à être courageux. Je pense qu'il y a aussi, chez Edouard Abbey, ce n'est pas du tout un moralisateur, c'est même un anti-moralisateur. Il a épousé 5 femmes, il a eu plein d'enfants alors qu'il était plutôt contre le fait d'avoir des enfants. Enfin, à chaque fois, sa vie a été contradictoire. Mais au fond, que notre vie soit contradictoire ne doit pas nous empêcher de nous engager sincèrement pour ce que nous voulons faire sur la question écologique. Et donc, il faut retrouver cette espèce de lien entre le très grand et le très intime.
On va écouter un extrait justement de Seuls sont les indomptés, en 1962, donc David Miller, adapté du roman The Brave Cowboy, donc d'Edouard Abbey, avec Kirk Douglas, et qui raconte beaucoup aussi du jeune Edouard Abbey dans cet extrait.
Je veux dire que vous ne comprenez pas, un occidental aime la liberté. Ça signifie qu'il a horreur des barrières et que plus il y en a, plus il a soif de liberté. Avez-vous remarqué les innombrables barrières et les panthères qui se dressent devant nous et ce qu'elles disent ? Défense de chasser, de passer, de pénétrer, défense d'entrer, propriété privée, ne pas stationner, défense de klaxonner, de fumer. Il n'y a plus qu'à se laisser enfermer, vous voyez ce que je veux dire ?
Mais nullement envie de le savoir. Oui. Ici, c'est un monde réel et il existe de vraies frontières et de vraies barrières, de vraies lois et de vrais drames. Vous devez vous conformer au règlement ou bien vous perdez. Et dans ce cas, vous perdez tout.
On peut toujours sauver quelque chose.
Gina Roland, Kirk Douglas, Elisabeth. Il y a tout dans cet extrait. Hein. Ça raconte Abbey extrêmement bien.
Il y a tout et il y a, de façon métonymique, le barbelé, le fil de fer barbelé. Au tout début du film, on voit Kirk Douglas claquer avec une tenaille, péter un barbelé pour pouvoir passer d'un pré à l'autre. Et il y a cette réflexion dans ce roman, extrêmement précoce dans la carrière d'auteur d'Edouard Abbey, autour de la propriété privée, cette espèce de chose sacrée et sacralisée aux États-Unis, propriété privée contre mobilité, donc liberté. Déjà, il met en place ce qui sera le socle de sa réflexion par rapport à la défense du vivant et à ceux qui s'opposent à la défense du vivant au nom de, précisément, entre autres, de la propriété privée.
Edouard Abbey, naturellement subversif, c'est le titre de votre documentaire, Elisabeth Quint. C'est à voir donc demain soir sur Arte, en ce moment sur la plateforme de la chaîne. Et on y revient évidemment dans un instant, puisque vous êtes nos invités cet après-midi.
Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Wow. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'aurais peur de le perdre au bas des falaises. Adieu l'amour fou, bonjour la terre anglaise. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Des traces dans la neige, que sais-je, un torrent de boue, un trou. Si j'avais un troupeau, j'aurais peur de le perdre. Voilà pourquoi, berger, j'ai pas fait berger, berger. J'ai pas fait berger, berger. Il pleut.
Bertrand Belin, à l'instant sur France Inter.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Au fil des années, à travers mon expérience d'activiste, en prise avec la réalité et n'ayant pas beaucoup d'argent, il m'est apparu que la loi était souvent injuste envers les plus pauvres ou envers les sites naturels qui ne peuvent pas se défendre. Pour moi, la même différence existe entre un riche et un espace naturel qu'entre un riche et un pauvre. Et le système juridique est conçu pour avantager les plus riches, les plus puissants, mais pas pour défendre les animaux ou les pauvres.
Les choses n'ont pas changé. Lorraine Hagen, avocate, activiste écologique. On retrouve donc dans votre documentaire Elisabeth Quint. Édouard Abbé, naturellement subversif, à voir demain soir sur Arte. Nous sommes également avec Lucille Schmitt, qu'on voit évidemment. Vous témoignez sur Édouard Abbé, que vous avez découvert quand d'ailleurs, vous l'avez lu très tôt.
Je l'ai lu avant d'être écologiste, en fait.
C'est
un ami qui me l'a offert, qui est un peu plus âgé que moi, et qui avait adoré l'humour et l'ironie, et qui n'est pas spécialement écologiste, mais qui était libertaire. Donc je trouve que c'est intéressant d'avoir en tête qu'il a pu être lu par des personnes qui n'étaient pas engagées, mais qui trouvaient une ironie, une démesure et une capacité à créer des personnages qui sont des personnages assez délirants et qui nous font sortir de nous-mêmes.
Ouais, on va y revenir dans un instant. Elisabeth Quint, on entendait parler de lutte des classes là dans cet extrait avec l'avocate Lorraine Hagen. Ça reste un élément central dans l'écologie politique aujourd'hui.
La lutte des classes, le social, mais certains considèrent que peut-être ça n'est pas un élément suffisamment important aux États-Unis, et d'autres, comme Laurel Hagen, qu'on avait interviewé à Moab, c'était au mois d'avril, et peut-être d'autres, à contrario, trouvent que cela prend trop de place en France, dans l'écologie politique, et qu'il faudrait plus se concentrer, non pas sur la lutte des classes, mais sur la défense du vivant. Donc, il y a des points de vue contradictoires ou complémentaires autour de cette notion d'écologie ou lutte des classes. Je ne sais pas ce qu'en pense Lucille Schmitt sur ce qui se passe en France.
Oui, c'est contradictoire et en même temps, à mon avis, pour faire exister une écologie du quotidien et aller contre ce récit qui dit que l'écologie est contre le peuple, il faut évidemment aller du côté d'une écologie sociale et du côté d'une écologie qui serait compréhensible par tous et qui partirait d'en bas, comme on dit, c'est-à-dire une écologie roots, comme on dit aux États-Unis. Ça, c'est essentiel. Après, pourquoi est-ce qu'on opposerait, au fond, la défense des arbres, la défense de la nature, la défense du fleuve et la question sociale ? Je rappelle que ce sont les pauvres, les plus précaires, qui ont le moins accès à la nature, que aujourd'hui, lorsque vous vivez dans une banlieue bétonnée, tout simplement pouvoir aller dans un parc, pouvoir cueillir une fleur, apprendre à savoir ce qu'est une herbe, c'est quelque chose qui n'existe pas.
Et ce sont aussi eux qui subissent le plus fortement les effets du réchauffement climatique,
les îlots de chaleur, la pollution, etc.
Alors ce roman, Le gang de la clé à molette, donc on l'a dit, sorti en 1975, donc il met en scène des personnages assez rocambolesques qui recourent donc au sabotage pour essayer de défendre les espaces sauvages avec un autre acteur majeur de ce roman qui est le barrage, Elisabeth Quin.
Le barrage de Glen Canyon, qui a été édifié dans les années 60, qui a été un choc, comme Edouard Abel le retranscrit lorsqu'il évoque son personnage ancien vétéran du Vietnam, Hay Duc, qui revient du Vietnam et qui découvre cette monstruosité de béton. Et effectivement, là où il y a dorénavant ce barrage, avant, il y avait l'eau vive. Et l'eau vive, c'est quelque chose, comme le raconte très bien une naturaliste, Terry Tempest Williams, dans le documentaire, l'eau vive, c'était fondamental pour Abbey. C'était l'idée de la liberté, de la mobilité, et puis ça le reliait avec son maître à penser, qui était le théoricien de la désobéissance civile, Thoreau, qui aimait énormément l'eau vive. Abbey lui-même adorait ça. Et donc, il y a ce choc devant la création du barrage, la construction du barrage, qui va bloquer l'eau vive. Et à partir de là, quatre types totalement à la masse, c'est-à-dire Bonnie et ses trois comparses, qui n'ont rien à voir avec le sabotage a priori, vont se mettre en tête d'aller démonter quelques machines.
C'est quoi les pieds nickelés un petit peu qui décident d'aller démonter un barrage?
C'est entre les pieds nickelés et les castors juniors, avec effectivement des outils totalement dérisoires. Et c'est là où c'est comique. C'est que ce n'est pas des gens qui vont avoir des kalachnikovs ou des outils létaux, mais ça sera avec de l'eau sucrée, de la dynamite dont ils ne se serviront à peine, et des clés à molette. Donc effectivement, il y a une disproportion qui rend comique leur ambition de démonter les machines-outils et éventuellement de démonter le barrage, ce qu'ils ne feront jamais, bien sûr.
Avec donc cet ingrédient de l'humour, Lucille Schmid, qui permet de faire passer tellement de choses, finalement, et qui sera aussi un des fils conducteurs aussi d'Edouard Abbey dans son écriture.
Ah, je pense que c'est de très loin le roman le plus drôle, c'est-à-dire qu'au contraire, il y a En descendant la rivière, enfin, ce que dit Elisabeth est très important, c'est-à-dire que il y a cette question de la place de l'eau et la place de l'eau vive au sens où l'eau elle est libre. Et en écoutant ce qu'on disait sur le gang de la clé à molette, je pensais à une romancière qui s'appelle Emmanuelle Pagano, Salasque, et qui a écrit justement sur l'eau, et qui a écrit sur la façon dont un barrage, la création d'un barrage dans le sud-est de la France, pour créer le lac Salagou, détruit la mémoire. C'est-à-dire, ce qui est extrêmement intéressant, ça s'appelle Sauf Riverain, c'est qu'elle raconte comment, lorsqu'on crée le barrage, en fait, on ennoie la mémoire vigneronne, on ennoie les vignes, on ennoie les villages, et donc, lorsque vous bouleversez ainsi le paysage, d'une certaine façon, vous ennoyez à la fois la mémoire de la nature, mais la mémoire humaine. Et évidemment, le lac Salagou, ça n'a rien à voir avec le gigantisme des barrages américains. Mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on prétend recréer au fond un espace naturel, et il est artificiel, et il est organisé autour de cette présence de l'État, des politiques publiques. Chez Abbey, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un truc très anarchiste, au sens où l'État aux États-Unis, c'est pas comme l'État en France. Mais chez Emmanuelle Pagano-Salasque, il y a aussi quelque chose qui nous dit comment les politiques publiques sont venues détruire les mémoires paysannes.
Elisabeth Quin.
Oui, là en l'occurrence, le gigantisme, c'est le lac Powell, qui était un lac artificiel dédié aux loisirs. Et du point de vue d'Edouard Abbey, le loisir n'avait pas à être organisé avec des lotissements et des gens qui venaient, qui posaient leur gros cul dans leur voiture vulcanisée, pour reprendre l'expression d'Edouard Abbey, ce n'est pas la mienne, je le cite. Mais il considérait que le loisir, le vrai loisir, ça ne revêtait pas ce terme de loisir, ça serait juste de marcher dans la nature, de regarder les étoiles, de s'allonger entre les genévriers et de se laisser bercer par le ululement d'un coyote, et certainement pas d'être dans un lotissement sur un petit machin qui pétarade. Donc il y avait comme ça une dimension, oui, effectivement, libertaire, et puis presque une exigence par rapport à soi, une espèce d'idée de la noblesse de ce que c'est le rapport de l'individu dans la nature et au sein du vivant.
Sur la question de l'humour, on va écouter Frédéric Gros, qui est professeur d'humanité politique, qui figure aussi dans votre documentaire et qui, vous allez le voir, dit des choses très intéressantes à ce sujet autour d'Edouard Abbey.
Ce qui fait qu'on va avoir d'autant plus d'humour en pratiquant ces gestes, c'est qu'il y rentre quand même quelque chose qui relève de la dimension du baroud d'honneur. Baroud d'honneur, c'est-à-dire accepter d'avance qu'il y a certaines batailles qu'on entreprend non pas pour les gagner, mais pour l'honneur de les avoir menées et pour ce que cet honneur représente, eh ben, au niveau humain.
Et la nuance est importante, Elisabeth.
Non, mais c'est remarquable ce qu'il dit. Alors, Frédéric Gros le dit aujourd'hui, 50 ans après. Les années 70, c'était pas la même histoire. C'était une ébullition démente, notamment aux États-Unis. Parce qu'il y avait, en parallèle ou mêlé à cette contestation écologiste, il y avait aussi toute la contestation autour de la guerre du Vietnam. Il y avait les luttes pour les droits civiques, ça c'était déjà plus ou moins acquis, mais il y avait les luttes pour les droits des femmes, pour l'avortement. Il y avait une véritable ébullition contre-culturelle. Et peut-être que le désespoir au sens du baroud d'honneur, on sait que on n'y arrivera pas parce que la lutte est asymétrique. C'était pas aussi évident dans les années 70. Il y avait eu le rapport Meadows sur les limites à la croissance. Donc, il y avait peut-être au sein de tous ces militants, vraiment, sérieusement, ils avaient à l'esprit l'idée qu'on pourrait changer le monde. Et puis, il y a eu le choc pétrolier et puis ça a été terminé. Donc, vu d'aujourd'hui, effectivement, c'est la grandeur du baroud d'honneur. À l'époque d'Abbé, quand il écrit en 73-74 Le gang de la clé à molette, peut-être se dit-il, il y a une chance. Quand il écrit la suite du gang de la clé à molette, le retour du gang, qu'il le publie juste après, ce sera publié après sa mort en 90, il l'écrit en 89, alors qu'il est quasiment à l'agonie. La teinte du roman, qui est un très grand roman, est beaucoup plus mélancolique, car il sait que c'est cuit, que le combat est perdu. Je suis pas sûr qu'il le savait, ça c'est vraiment moi, je suis pas sûr qu'il le savait à l'époque.
Ouais, justement, Lucille Schmid, la radicalité, notamment dans le gang de la clé à molette, a nourri pas mal de fantasmes autour de la figure, justement, d'Edouard Abbé. On a pu le qualifier on aurait pu le qualifier de dangereux éco-terroriste, d'ailleurs, à l'époque, si le terme avait existé. Hein, ça lui aurait collé parfaitement, non ?
Oui, en tout cas, on voit bien que dans le débat qui a été lancé par ce mot de Gérald Darmanin vis-à-vis des soulèvements de la Terre, il y a une manière de, a priori, disqualifier le combat écologique, alors que lorsqu'on lit Edouard Abbé, lorsqu'on s'intéresse à la question des méga-bassines, lorsqu'on tout simplement on regarde disparaître le vivant, lorsqu'on se dit qu'on sera dans un printemps silencieux, comme le dit Rachel Carson... On est révolté, on est en colère et on peut comprendre la dégradation des biens. Hein. Donc, au fond, dans ce terme éco-terroriste, il y a quelque chose qu'il faut profondément combattre parce qu'il y a une négation de ce qui est en train de nous arriver. Et dans ce que disait Elisabeth Quin, sur la façon de dire que peut-être le combat est perdu, je crois que dans l'idée d'aller détruire certaines choses qui sont des symboles, symboles du productivisme, symboles d'une agriculture qui tue la terre, symboles d'une agriculture qui tue aussi les agriculteurs, dans cela, il y a l'idée de récupérer un petit peu à la fois de dignité pour chacun, mais aussi d'espoir. Parce que moi, je ne veux pas considérer que les choses sont faites. Edouard Abbé, peut-être, à la fin de sa vie, s'est aperçu que la nature avait été profondément abîmée, mais il n'a, comme c'était quand même aussi un grand individualiste, il n'a pas forcément vu tous ceux qui allaient se lever en son nom. Il ne connaissait pas les gens d'Extinction Rébellion, il ne nous connaissait pas, nous. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans la construction de collectifs qui me semble importante. Et je voudrais dire que on n'est pas des terroristes, on est des écologistes, et que la question de qui pratique la violence doit être aussi renvoyée à ceux qui aujourd'hui tuent le vivant.
Paul Elisabeth Watson le dit très drôlement dans le documentaire. Paul Watson, et d'ailleurs Edouard Abbé le faisait avant lui, Paul Watson établit très bien la distinction entre le sabotage et le terrorisme. S'en prendre à des biens ou s'en prendre à des personnes, ça n'a rien à voir. Et c'était exactement l'éthique d'Edouard Abbé et de ses amis de Earth First, puisque à la suite de l'apparition du gang de la clé à molette, s'est créé ce groupe de militants activistes Earth First.
C'est d'ailleurs les premiers extraits qu'on entendait avec la voix d'Edouard Abbé en 81. Absolument. C'était un des rendez-vous justement avec ce mouvement. Ce qui a fait quand même d'Edouard Abbé une figure très clivante dans ces États-Unis des années 70, comme le sont aujourd'hui certains écologistes aux yeux de la société quand même. Hein. On a à peu près des comparaisons qui sont possibles entre nos deux époques.
Mais Edouard Abbé, d'ailleurs, a été qualifié d'éco-terroriste, même en France, par des écrivains français qui ont écrit sur lui dans les années 90-2000. Enfin, il y a eu toutes sortes de polémiques. Il a été qualifié à tort d'éco-terroriste, Edouard Abbé. Et ce n'était pas un éco-terroriste. En termes de sabotage, tout ce qu'il a fait, c'est de faire péter un panneau publicitaire. Donc ça s'arrête là. Mais effectivement, cette confusion volontaire a été entretenue depuis le début, enfin, la fin des années 70, véritablement avec la création de Earth First, quand ils ont commencé à durcir leur combat.
Allez, on va écouter un nouvel extrait de votre documentaire, Elisabeth Quin, autour justement du gang de la clé à molette sur la question de la légalité.
Comment ? Demanda Duke. C'est pas légal, dit Smith. Tu viens de nous dire que tu avais prié pour un tremblement de terre. Ouais, mais il n'y a pas de loi contre ça. Tu priais dans un but criminel. C'est vrai, c'est toujours comme ça que je prie. En vue de faire le mal par anéantissement d'une propriété gouvernementale. C'est exact, Doc. C'est un crime.
Voilà. Peut-on être qualifié de criminel si l'on souhaite qu'un tremblement de terre vous rende service?
C'est génial. C'est un roman. C'est une farce. Rappelons-le.
Le gang de la clé à Molette, c'est à lire, évidemment, tout comme votre documentaire est à voir demain soir sur Arte. On y revient avec vous dans un instant. Et puis, rejoignez-nous également, amis auditrices, auditeurs, avec vos messages, vos questions, vos témoignages. J'imagine que vous avez peut-être lu ce roman. Dites-nous ce que vous en avez pensé. On se retrouve dans un instant après Lola Young. C'était Lola Young.
France Inter. La Terre au carré.
Souvent, on s'aperçoit, enfin moi je m'en suis aperçu, que si un mouvement est rapide, il ne crée pas forcément la culture qui permet que ce changement s'inscrive dans la durée. Quand on s'est battu contre les OGM de première génération, ça a mis 15 ans. Ben, ça a construit tout un réseau, pas simplement en France, mais au niveau planétaire, sur les semences paysannes. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui, de toute façon, aboutira à des transformations. Parce qu'il y aura de toute façon pas d'alternative. Le TINA, le vrai, there is no alternative. Il est de notre côté. Il n'y a pas d'autre alternative que de se battre contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité.
La voix de José Bové qui figure dans votre documentaire, Elisabeth Quin, Édouard Abbé, naturellement subversif, donc à voir demain soir sur Arte. On en parle également avec vous, Lucille Schmid. José Bové, c'est une figure évidemment incontournable du combat écologique en France. Est-ce qu'il a des points communs d'ailleurs avec Édouard Abbé? Est-ce que...
Selon José Bové lui-même, il ne l'a jamais rencontré, il le déplore d'ailleurs, contrairement à Paul Watson qui était une sorte d'ami d'Abbé. Selon lui, il est son fils spirituel. La lecture du gang de la clé à Molette a donné à Bové des clés à Molette, entre guillemets,
pour aller démonter les
pour
McDo.
L'Arzac, pour aller démonter le McDo. Et surtout, il a compris, et il le dit d'une manière tellement lapidaire, il faut mettre les rieurs de son côté. Il faut transformer le tribunal en tribune. Et c'est ça qui va peut-être fabriquer le consensus
de tout un chacun pour rejoindre le combat écologiste.
Oui, donc il y a quand même une sacrée filiation.
Donc il y a une sacrée filiation, et puis aussi chez Beauvais, une interrogation et une vraie réflexion autour de la croissance. Il y a une formule d'Edouard Abbey qui était géniale, parce qu'il avait le sens des formules. Il disait, la croissance pour la croissance, au sens de croissance économique, c'est l'idéologie de la cellule cancéreuse. Bon, et ça, c'est quelque chose qui a percuté immédiatement la réflexion de José Beauvais et les réflexions qu'il a menées au cours de ces années de militance.
C'était le maître de la punchline, Abbé. Hein.
C'était absolument ça.
Mais des petites formules font beaucoup, d'ailleurs, dans le combat écologiste, Lucille Schmitt. Hein. Il suffit de trouver le bon mot pour tout d'un coup créer un mouvement, finalement, dans l'esprit des gens. Hein.
Je pense que il faut se rappeler dans les grèves climatiques qui ont lieu en 2019-2020 des slogans magnifiques qu'il y avait chez les manifestants. You break my earth pour dire you break my heart, ou je veux des baleines pas que dans mon soutif, ou des choses comme ça. Enfin, il y avait des choses assez extraordinaires. Et donc c'était une inventivité en plus qui s'exprimait en plusieurs langues, puisque c'était des grèves climatiques qui existaient dans l'ensemble du monde, et beaucoup en Belgique, mais la France a été un pays qui a été très... Et donc cette question du langage, cette façon de trouver les mots, au fond de questionner les institutions, c'est hyper important. On parlait tout à l'heure du droit, de la loi, etc. Je voudrais rappeler que de nombreux procès climatiques ont lieu en France. Et que dans le cadre de ces procès climatiques, justement, on a entendu des plaidoiries qui étaient incroyables, qui donnaient leur place aux fleuves, qui donnaient leur place à la nature. Le droit en environnement a été à la fois très opposé aux activistes et a été toujours un domaine qui était utilisé par les activistes pour expliquer qu'on pouvait faire des procès, qu'on pouvait donner des droits aux arbres, qu'on pouvait donner des droits aux fleuves, etc. Donc on est dans des situations où on invente un nouveau langage, on a des nouveaux personnages, et puis on est subversif avec les mots parce que justement, on ne veut pas... Je voulais quand même rappeler que la non-violence fait partie beaucoup de la culture des activistes écologistes. La non-violence, c'est évidemment pas se laisser passivement dépasser. C'est opposer une forme de résistance qui trouve d'autres moyens d'être politique.
Il y a des mots qui embarquent, il y a des mots qui sont très destructeurs, celui d'éco-terrorisme dont on parlait tout à l'heure. Hein. Ça fait des ravages quand même aussi, hein, parce que c'est des mots qui font mouche.
Ça fait des ravages parce que ça stigmatise, ça fait mouche et ça disqualifie sur le moment et pour le futur un combat qui est tout sauf à disqualifier, absolument. Mais encore une fois, Edouard Abbey avait réfléchi, il avait même d'ailleurs été qualifié par différentes instances, à commencer par le FBI, de possible terroriste, et il raconte de façon assez drôle qu'il avait récupéré à la fin de son existence, à la fin des années 80, le dossier que le FBI lui avait consacré, qu'il avait trouvé ça super laborieux à lire, sans aucun... En anglais, tedious, un dossier quand même assez considérable, où les gars le suivaient vaguement, en se disant c'est quoi ce mec qui inspire Earth First, etc. Mais il ramenait ça toujours avec cette espèce d'humour et de sens de la provocation irrésistible. Il était irrésistible.
Lucille Schmitt, José Beauvais parlait du temps long aussi nécessaire à l'action militante, aux écologistes. Ça, c'est quand même aussi un ingrédient peut-être assez important à souligner, non?
Oui, il y a certainement la question de l'opiniâtreté, et tout à l'heure on évoquait ce sujet du baroud d'honneur. Moi je ne crois pas du tout qu'il y ait une idée de baroud d'honneur dans l'écologie. En revanche, il y a l'idée qu'on ne gagnera pas de la même manière que les autres pensent gagner. C'est-à-dire que de toute façon, on a d'autres conceptions de la victoire, et il y a d'autres moyens à utiliser. Donc, je crois que ce qui est intéressant dans l'écologie, c'est à la fois l'opiniâtreté, certainement une forme de courage personnel, mais au service d'une cause qui vous dépasse, et puis la capacité à se dire que peut-être ça se produira, cette victoire ou ce changement de monde, quand vous ne serez plus là. Moi, je me rappelle, j'ai fait beaucoup de prospectives écologiques, et à chaque fois, je demandais à des gens d'écrire, et pour aller en 2050, il me disait toujours « Mais quel âge j'aurais ?» Je dis « Écoute, on s'en fout de ton âge. La question, c'est justement après. » Et donc, opiniâtreté, humour et créativité, parce que de toute façon, ce nouveau monde écologique, il ne sera pas celui des précédents, il ne sera pas celui du productivisme, il sera d'une certaine manière l'inverse de ce qu'on nous a présenté comme le progrès.
Dans ce portrait plein de louanges d'Edouard Abbey, quelle est la part sombre du personnage d'Elisabeth Quint, quand même?
Mais la part sombre, la part complexe, la part pleine de contradictions. Bah écoutez, c'est un type qui...
Parce qu'il y en a, hein.
Alors, c'était un décroissant démographique, il a eu 5 enfants. Mais encore une fois, Bon, il s'en amusait quand on l'interrogeait à propos de ça. Et puis, il n'était pas le seul. C'est-à-dire que dans les années 70, on parlait de la bombe P, la bombe population. Il y a un type qui s'appelle Paul Ehrlich, un Américain, qui avait théorisé et publié des livres autour de ça.
Donc, fait un carton,
il était, oui, il était nourri par ça. Mais effectivement, il n'avait aucune vergogne à dire, et on le voit dire, je suis contre les gros pondeurs, je pense qu'il faut les taxer sur un plan fiscal, alors qu'il avait 5 gosses. Bon, ça ne le dérangeait pas. Il était assez sexiste, il était considéré comme un macho. Françoise Daubonne, celle qui a théorisé l'écoféministe, on lui dit lapinisme phallocratique. Bon, c'est pas grave, bien, ouais. Il le savait, il s'en amusait. Et en même temps, quand on lit Le gang de la clé à molette, 3 hommes, une femme, les 4 personnages principaux, Bonnie, la femme clé du roman, est une sacrée bonne femme, émancipée, qui envoie bouler les types, qui est un personnage absolument merveilleux, de liberté personnelle et de truculence. Mmh. Donc il était plein de contradictions, et comme le dirait Laurel Hagen, à qui j'ai posé la question, qui ne l'est pas ?
Ouais, Lucille Schmitt, cette misanthropie, en tout cas, ce sexisme affiché, est-ce que ça peut résonner aujourd'hui sans être mal compris par les mouvements écolos, justement ? Parce que c'est des choses qui sont très sensibles aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs.
Oui, c'est extrêmement sensible, et moi qui suis d'une autre génération, effectivement, je suis souvent abasourdie de la façon dont on me fait la morale lorsque je dis... pourtant, je suis une femme, donc en plus, on me fait moins la morale que si j'étais un homme. Mais je pense que ce qui est important, surtout, c'est que chacun lise. C'est-à-dire qu'on est emporté par ce roman, on est emporté par cette écriture, et avec, c'est pas seulement l'humour, c'est une espèce de capacité à faire exister les personnages. Moi, j'ai créé un prix romanesque sur l'écologie, et je dis que, toujours que quand je l'ai créé il y a une dizaine d'années...
Prix du roman d'écologie.
La documentation était assez mal digérée. On avait des personnages qui étaient un peu des archétypes, c'était des sortes de robots moraux. Et puis, au fur et à mesure que le romanesque progresse, quelque chose se passe autour des contradictions et de la capacité à raconter des vraies histoires. On retrouve l'univers d'Edouard Rabet, et aucun d'entre nous n'est à 100% écolo. Chacun d'entre nous est au moins à 5 ou 10% capable d'aller manger un steak, capable d'aller prendre la voiture,
comme lui,
etc. Comme lui.
Ouais. Allez, on passe aux questions des auditeurs et auditrices. Ah tiens, d'abord un petit message de Sandrine qui nous écrit « Merci de mettre Edouard Rabet en lumière. Nous avons la chance à Marmande d'avoir une librairie nommée Le Gang de la Clé à Molette. Le saviez-vous, Elisabeth Kerr ?
Mais je ne le savais pas, je viens à Marmande dès que possible.
Eh bien voilà, pour aller rencontrer peut-être les propriétaires de cette librairie. On écoute Pierre qui nous envoyait un message sur l'application Radio France.
Il est question très souvent de écologie punitive, mais c'est bien gentil tout ça, est-ce que la planète, en personnalisant légèrement, ce n'est pas elle qui va nous punir si l'on ne fait pas ce qui est nécessaire pour évoluer sur le climat et la biodiversité, etc.
Lucille Schmitt, est-ce que vous voulez répondre à Pierre ?
Moi, je voudrais quand même dire, je pense que Pierre a raison de dire que des catastrophes se produisent déjà, et qu'on sait qu'il y a déjà des millions de personnes qui meurent de manière prématurée à cause des sécheresses, des inondations, etc. Mmh. Mais je voudrais insister sur le fait que ce ne sont pas des catastrophes naturelles, c'est-à-dire que ce sont des catastrophes qui sont provoquées par l'action
des
activités humaines, des sociétés, et c'est pas la planète qui va nous punir, c'est nous qui nous punissons nous-mêmes.
Jean-Marc nous dit comment ne pas avoir une filiation entre Élisée Reclus, géographe anarchiste, et Édouard Abbé.
Absolument, il a raison, il a parfaitement raison. Il y a une filiation avec, encore une fois, la bouffonnerie, la farce et le sens de l'humour en plus. Reclus était un immense géographe et un très grand poète, enfin dans son écriture, mais il y a cette dimension qu'il a introduite. Alors, il faut dire qu'il y a eu, des gens extraordinaires qui ont écrit avant Abbé, je parlais d'Aldo et Léopold, il y en a eu d'autres, Rachel Carson, vous avez parlé de Rachel Carson,
Le
printemps silencieux, en 62, qui a été un texte très, très important, fondateur, mais il a introduit cette chose en plus, qui est l'humour.
Et puis enfin, Félix nous dit, étant grand fan de Jim Harrison, grand écrivain amoureux de la nature, je ne peux m'empêcher de penser que Le gang de la clé à molette est grandement inspiré d'Un beau jour pour mourir. Les deux livres partagent beaucoup de points communs. Qu'en pensent vos invités ?
Il a tout à fait raison. Je pense que les deux livres ont été écrits à peu près en même temps. Un bon jour pour mourir de Jim Harrison, tout à fait. Une équipée de personnages qui veulent saboter. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a eu une espèce de fécondation mutuelle et générale autour de ces thématiques. Le vivant, l'émerveillement, et éventuellement le sabotage au nom de la défense du vivant et la désobéissance civile héritée de Thoreau.
Merci beaucoup à toutes les deux, Elisabeth Quint, ce soir, donc demain soir, pardon, sur Arte, 23h20, Édouard Abbé, naturellement subversif, ce documentaire que vous signez avec Jérémy Frey, on peut le voir déjà sur la plateforme d'Arte, et puis le prix du livre du roman d'écologie, Lucille Schmitt, c'est quoi votre dernier prix ?
Alors c'est ceux du lac de Corinne Royer qui raconte une histoire vraie qui se passe à Bucarest.
Merci beaucoup, et puis bien sûr on lit Le gang de la clé à molette, entre autres. Hein.
Entre autres,
merci
et des airs solitaires.
À toutes les deux. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission, à Lucie Sarfati pour la coordination, Maxime Goudard à la technique et à Mazir Amadine Guest qui réalisait cette Terre au carré. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Dans un instant, Affaires Sensibles.
Je vais vous parler de Clodo. Ah, c'est un acronyme de comité liquidant ou détournant les ordinateurs.
À tout à l'heure.